Bonjour et bienvenue à l'émission État de splendeur, en cette émission du 25 août 2011. Alors aujourd'hui, à cette émission qui parle de culture patrimoniale tant traditionnelle que d'avant-garde à travers le Québec, on a différents sujets pour vous. On va commencer par quelques actualités culturelles qui se déroulent dans différentes régions. Et on va aussi vous parler d'un projet assez ambitieux d'une dame qui habite Sainte-Agathe-des-Monts et son projet Trans-Québec Express. Et enfin, on va lancer quelques pistes de réflexion en rapport avec le lait au Québec, puisqu'au Québec, on fait un des laits des plus hautes qualités dans le monde, mais on fait aussi un des laits qui coûte le plus cher dans le monde. Donc, c'est tout ceci et on va débuter avec quelques actualités tout de suite sur les ondes de Radio Centre-Ville à État de splendeur. Donc voici ici quelques actualités à l'émission État du Splendeur. Vous êtes toujours en compagnie de Patrick Assican sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et puis, en fin de semaine, pas tout à fait en fin de semaine, la semaine prochaine débute un festival quand même de très bonne réputation, voire de réputation internationale, en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de, sans doute, une des fins de semaine les plus agréables en Abitibi, à Rouyn-Noranda plus précisément. C'est le Festival des musiques émergentes. Le Festival des musiques émergentes a pris une certaine ampleur dans les 2-3 dernières années. Il est en train d'amener le pion, d'ailleurs, au Festival international de musique actuelle de Victoriaville, quoique c'est sûrement discutable, évidemment. Les deux ont chacun leur niche spécifique. Le Festival de musique actuelle de Victoriaville est plus dans la musique actuelle électroacoustique, l'expérimentale, tandis que le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, c'est plutôt pour la relève musicale et puis les nouveaux musiciens qui se présentent sur la scène. Et puis, comme je disais, depuis quelques années, le Festival de Rouyn, il s'impose. Et aussi, la ville de Rouyn-Noranda a tendance à s'imposer à cause d'une certaine résurgence de groupes de musique en provenance de non seulement Rouyn-Noranda, mais des villes des alentours, même de Val-d'Or aussi. Quoique, il y a une certaine compétition entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Pour ceux qui ne le savent pas, Rouyn-Noranda, c'est la ville qui est un petit peu plus grosse et Val-d'Or, c'est la ville plus petite. Val-d'Or se targue d'avoir une vie culturelle plus agréable que Rouyn-Noranda et Rouyn-Noranda se targue de tout simplement être plus grosse et d'avoir aussi une meilleure vie culturelle que Val-d'Or. Mais quoi que c'est discutable et puis on ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs nouveaux groupes musicaux dans la région de l'Abitibi, surtout autour de Rouyn-Noranda, qui ont fait de sorte que il y a eu un léger boom musical dans la ville et ainsi une bonification de son offre culturelle par le fait même. C'est surtout des groupes musicaux de musique non sérieuse, c'est-à-dire soit du rock ou de la musique du hip-hop, de la musique underground ou même plus mainstream. Ça peut être du pop ou de la musique électronique, mais néanmoins, pour la jeunesse, on va dire que ça bonifie l'offre culturelle de Rouyn-Noranda. Et à cause de ça, il y a des villes comme Sudbury et North Bay en Ontario qui sont désormais tournées vers Rouyn-Noranda comme un chef-lieu ou un lieu fort du coin pour la relève musicale. Alors, autrefois, Rouyn était un petit peu considéré comme vraiment hors des sentiers battus. Aujourd'hui, Rouyn-Noranda est de plus en plus perçu comme un lieu fort et pour la relève musicale. Ainsi, de plus en plus de groupes qui sont en tournée perçoivent Rouyn-Noranda comme une destination de qualité qui mérite tout à fait le détour. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour Rouyn-Noranda et aussi pour le Festival de musique émergente, puisque le Festival de musique émergente a justement alimenter le feu de cette résurgence, de ce petit boom musical. On comparera pas Rouyn-Noranda à Seattle dans les années 90, mais néanmoins à beaucoup plus petite échelle, c'est quand même vrai de dire qu'il y a un petit boom musical. Peut-être comparable au boom musical qu'a connu le lac Saint-Jean au courant des années 2000. Donc, c'est un rendez-vous pour un excellent programme composé de musique dans vraiment tous les styles, de l'électronique à l'acoustique en passant par le tous les styles entre les deux. Et puis, un clou du Festival des musiques émergentes, c'est vraiment le fait que y a comme une certaine tradition à chaque année. Les pique-niques électroniques, comme bon nombre de personnes connaissent les pique-niques électroniques, ils vont devenir nomades. Les pique-niques électroniques sont les soirées, les journées, en fait, dansantes sur l'île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau. Et puis, ils vont devenir nomades et puis ils se déménagent jusqu'en Abitibi pour se déplacer à Rouyn-Noranda pour une édition de danse en plein air sur les rives du lac Osisko, qui est non loin de Rouyn-Noranda. Et il y a une presqu'île sur ce lac. Et puis, c'est là que les pique-niques électroniques vont installer leur piste de danse. Et puis, tout le monde est invité à venir danser pour une édition spéciale des pique-niques électroniques au Festival des musiques émergentes. Donc, si vous allez sur le Festival des musiques émergentes, puisque c'est assez bientôt quand même, si vous allez sur la page du Festival des musiques émergentes, vous allez trouver un lien pour avoir des billets d'autobus pour Rouyn-Noranda à moitié prix. Ça, c'est pour ceux qui, évidemment, ont déjà un billet pour soit un billet pour un concert du Festival de musique émergente ou pour ceux qui ont un passeport ou qui veulent s'en procurer un. Vous pouvez avoir des billets d'autobus relativement peu chers, si je me souviens bien. C'est autour de 100 $, même en dessous de 100 $, ce billet pour ceux qui veulent assister au Festival de musique émergente. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour ceci sur le blog de etatdusplendeur.com et vous allez trouver un lien pour aller sur le site du Festival des musiques émergentes et là-bas, vous trouverez le lien pour avoir les billets de bus réduits pour aller en Abitibi. Autre actualité, toujours en Abitibi puisqu'on y est déjà. La semaine passée, dimanche, avait lieu un événement assez particulier pour l'Abitibi. L'Abitibi, tel qu'on le connaît, c'est un pays minier. Hein? Il y a soit de l'agriculture, soit un peu de forêt, mais surtout des mines. Et puis, à cause de ça, ça a donné bon nombre de villages qui sont mono-industriels. Il y a peu de diversification économique et donc la culture agroalimentaire, on aurait tendance à penser que ça n'existe pas là-bas. Pourtant, il y a quand même de l'agriculture et il y a aussi de l'agriculture à petite échelle en Abitibi. C'est pour ça qu'il existe la route du terroir de La Motte. La Motte, c'est le nom d'une municipalité. Et puis, ça fait déjà 13 ans maintenant. C'était la 13e édition dimanche passé. Les gens de la municipalité de La Motte en Abitibi ont décidé d'inviter de faire une exposition où on invite les producteurs de la région pour présenter en commun leurs différentes productions. Et puis, on invite seulement les producteurs qui font des produits faits à la main. C'est-à-dire que ceux qui font des produits en série ou des produits qui sont vraiment commercialisés de masse ne sont pas acceptés. Ce qui fait qu'à la route du terroir de La Motte, on retrouve seulement des véritables produits artisanaux, qui sont évidemment pas tous des produits du terroir, mais c'est tous des produits régionaux qui ont une certaine signature assez unique. Et c'est quand même une bonne présence de producteurs, de très petits producteurs agroalimentaires abitibiens là-bas. Et ce qui fait que c'est pas mal le seul événement qui se dévoue à la culture du terroir en Abitibi. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la culture du terroir existe en Abitibi. Et puis, c'est fort agréable de le constater. Et donc c'est un événement qui aide non seulement la municipalité de La Motte, mais qui a une certaine signification pour l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Et puis, lors de cet événement, ils font un traditionnel souper du terroir qui met en valeur les produits régionaux du secteur. Cette année, il y avait le ministre de l'Agriculture en personne qui y était. Et puis, il a dit que c'est ce genre d'événement qu'il voulait encourager grâce au livre vert qu'ils font. Ils veulent encourager les petits producteurs, les producteurs biologiques, les producteurs indépendants. Espérons que ce soit le cas et qu'il y ait une certaine enveloppe pour les producteurs pour favoriser ce type d'occupation du territoire et d'activité agroalimentaire. Et puis, c'est ça, il y avait plus d'une centaine d'exposants cette année, ce qui est quand même assez substantiel. C'est comparable à des expositions qu'on peut retrouver à Québec ou à Montréal ou à Sherbrooke. Donc, on va vous tenir au courant pour l'édition 2012 de la route du terroir de La Motte. Il faut signaler que le 3, 4, 5 septembre, ainsi que le 10 et 11 septembre, il y a un autre événement qui est d'une importance vraiment non négligeable pour le Québec en entier, c'est la fête des vendanges. La fête des vendanges de Magog-Orford. Et puis, c'est significatif pour l'Estrie, mais c'est significatif pour toutes les productions vinicoles du Québec. C'est une fête qui a lieu à Magog, où plusieurs vignobles viennent présenter leurs différents vins, et puis ils vont présenter les produits de la récolte de l'année ou des années précédentes, puisqu'il faut élever un vin en fût quelques années avant de le présenter. Quoique, évidemment, au Québec, nos vins sont assez jeunes. On n'est pas encore rendu au vin rouge de garde. Nos vignes sont trop jeunes. Mais bon, ça serait un autre sujet. Et justement, pour l'occasion, la semaine prochaine, on vous offre une émission entière dédiée à l'histoire du vin au Québec. Soit ici à Radio Centre-Ville, même heure, même poste, ou soit directement sur la radio web de etatdusplendeur.com. Et puis, finalement, une dernière petite nouvelle, quand même digne de mention, c'est juste à côté des studios de Radio Centre-Ville, à Montréal même, au coin des rues Saint-Laurent et Laurier, a lieu à chaque jeudi, dès 14h30, un marché fermier. Et c'est-à-dire que c'est pas un simple marché où on retrouve des pommes et puis des différents fruits et des plantes comme aux sorties de certains métros. C'est vraiment un marché où des producteurs eux-mêmes ont un kiosque. C'est directement dans le parc, puisqu'il y a un parc à cette intersection, au coin des rues Saint-Laurent et Laurier. Et puis chaque jeudi à 14h30, il y a un marché fermier avec plusieurs exposants agroalimentaires. Et puis ça vaut quand même le détour. Je vous invite à aller le parcourir. C'est tout de suite, ça coïncide avec la fin de l'émission. Donc tout de suite après l'émission, le marché fermier débute. Et ce, jusqu'en fin de journée. On va aller tout de suite en pause musicale. On va mettre une pièce qui avait été choisie puisqu'il pleuvait il y a quelques minutes. On avait choisi une pièce musicale à propos qui traite de cette pluie. Malheureusement, il ne pleut plus, mais nous allons quand même saluer cette pluie avec une pièce des Sinners issue des années 60 qui s'appelle « Il mouille à Sio ». C'était donc les Sinners, un groupe qui a été sorti des oubliettes des années 60. C'est le fameux groupe qui a donné naissance à la pièce québécoise, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Nous allons donc parler maintenant, vous êtes toujours à l'émission État de Splendeur en compagnie de Patrick Assikian jusqu'à 14h, et nous allons parler maintenant de Trans-Québec Express, qui est un projet quand même assez ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une dame qui s'appelle Michèle Lalande-Derry, une habitante de Sainte-Agathe-des-Monts, lieu fort connu et fort prisé dans les Laurentides, les Basses-Laurentides. Et puis, cette dame a habité pendant un certain temps en Arabie Saoudite, là où elle a eu une certaine révélation pour un projet de laquelle elle est... pour laquelle elle est maintenant présidente. C'est l'instigatrice et la présidente de la Corporation du chemin de fer Trans-Québec Express. Alors, tout a commencé il y a 10 ans. Cette dame nous arrivait avec un projet assez colossal. On la croyait seule et rêveuse, et puis bon, il y a bon nombre de personnes qui sont seules et qui ont des grands projets dans leur tête, mais qui n'y a absolument aucune suite à ça puisque ce n'est pas fondé dans la réalité. Mais par contre, suite à certaines actions que madame a posées et sa ténacité, on se rend compte que son projet est ancré dans une certaine réalité. Donc, madame Derry a habité il y a de cela quelques années en Arabie Saoudite. Et puis, en Arabie Saoudite, un jour, était en plein désert. Et puis, était en plein désert en train. Et puis, le pays en Arabie Saoudite a été un peu lié grâce au train. Et puis, il y a un bon 500-600 km qui passe en plein désert. Et puis, son train s'est arrêté en plein milieu de nulle part pour laisser passer un contingent de dromadaires. Et c'est là que Mme Derry eut un flash. Et elle s'est dit, pourquoi il n'y aurait pas un monde ferroviaire structurant au Québec? Et c'est là qu'est née son idée. Son idée, faire Trans-Québec Express. Le Trans-Québec Express est inspiré du Trans-Sibérien Express, la ligne de chemin de fer la plus longue au monde. Elle veut faire une ligne de chemin de fer encore plus longue que le Trans-Sibérien Express. Le Trans-Sibérien Express a 9297 km. Et Mme Lalande Derry veut faire le Trans-Québec Express, sur plusieurs années évidemment, une ligne de chemin de fer qui aurait 9500 km. Donc, ça serait vraiment le chemin de fer le plus long de la planète. Et le Trans-Sibérien Express a été fait, il y a 9297 km, ça a été fait il y a 110 ans. Ça a pris 20 ans pour sa construction, ce qui, pour l'époque, est quand même assez prodigieux. Mais aujourd'hui, avec les moyens techniques que l'on a et les connaissances scientifiques sur, disons, par exemple, la composition des rails pour qu'ils offrent une bonne adhérence et qu'ils ne réagissent pas trop au froid extrême, même moins 50, on sait comment composer chimiquement le métal des rails pour pas que ça réagisse au froid. Et puis, pour l'installation et tout ça, Lalande Derry estime que ça ne prendrait pas 20 ans, mais bien plutôt entre 10 et 20 ans pour la construction du Trans-Québec Express. Évidemment, ça nécessiterait un certain investissement, puisque le Trans-Québec Express fait le tour du Québec au complet. Là, il faut dire que ce n'est pas juste un investissement dans le vide. C'est un train touristique, mais avant tout, c'est un train pour le déplacement des marchandises et surtout pour relier les régions éloignées, telles la Jamésie qui est la région de la baie de James, la Basse-Côte-Nord, le Nunavik, à ne pas confondre avec le Nunavut, qui lui est un territoire. Le Nunavik, c'est le nord du Québec. Et puis, ces régions-là sont reliées ni par chemin de fer, ni par voie terrestre. Ils sont très, très isolés puisqu'ils dépendent de l'avion pour être connectés au reste de la civilisation. Bien qu'ils soient quand même autosuffisants, ils peuvent très bien prospérer de leur côté, mais c'est quand même intéressant d'être relié à la civilisation par une voie de communication terrestre. Et donc, cet investissement, puisque ça prendrait plusieurs milliards de dollars, évidemment, pour faire cette voie de chemin de fer, serait un investissement à long terme pour le développement régional, ce qui créerait par le fait même du développement économique dans ces différentes régions et de l'emploi aussi. Ne serait-ce que la construction du chemin de fer lui-même, ça ferait quand même une bonne part d'emploi qui serait... Une bonne partie de l'argent investi serait réinvesti dans la communauté. Donc, il y a toutes sortes d'arguments économiques qui sont entretenus par Michel Lalande-Derry qui fait de sorte que ça devient viable d'investir un tel montant pour faire un chemin de fer structurant qui fait le tour du Québec. On sait que le territoire est assez difficile dans le nord, hein. Il y a beaucoup de ravins, il y a beaucoup de rivières, mais tout ça a été soumis à différents membres influents du monde ferroviaire au Québec et qui disent que c'est possible de faire beaucoup plus facilement aujourd'hui des liens ferroviaires entre les différentes régions éloignées du Québec. Au retour de la pause publicitaire, on va un petit peu examiner où va passer ce fameux Trans-Québec Express et de quoi il s'agit. Et puis, on se laisse pour quelques secondes avec une pièce du groupe anglais Hot Chip.
Vous en avez marre de luncher au son de musique et de propos insipides. Radio Centre-Ville vous offre une solution, le magazine Centre-Ville dès 11h30 du lundi au vendredi. Faites le point sur l'actualité communautaire, sociale, politique, économique et culturelle. Au son des meilleures chansons francophones d'ici et d'ailleurs et des plus dynamiques rimes du monde. C'est un rendez-vous du lundi au vendredi de 11h30 à 13h sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Nuit Blanche, l'émission qui bouge et qui dérange. Tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin. Là où le hip-hop vit à Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Oh, oh, avec Dice B, Cabugless Baby. Yeah.
Sortes de matelas. On en a des petits, des grands. On en a pour tous les gens. Venez nous voir, on a toutes sortes de matelas. On en a des durs, des mous. On en a pour tous les goûts. Visitez leader.com pour votre prochain matelas. Venez nous voir, on vous attend. 655-2 Saint-Laurent.
Leader, 6552 Saint-Laurent.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.